Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création. Bonsoir à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? La dispute. Ce soir, littérature. Ce soir, Elisabeth Franck Dumas de Libération et Philippe Delaroche de France Culture se font face. Nous nous disputons ce soir autour de deux livres, Terminus radieux d'Antoine Volodine au Seuil et Les Indomptés de Nathalie Bauer aux éditions Philippe Ray. Nous retrouverons en fin d'émission André Chabin pour sa chronique mensuelle sur la vie des revues. Avant cela, dans une vingtaine de minutes, nous retrouverons Antoine Guillot pour sa revue de presse culturelle quotidienne. Le jeu de la dispute vous permettra ce soir de gagner des invitations pour Le Capital et son singe de Sylvain Creusevaux au Théâtre de la Colline à Paris. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'invité de la dispute cette semaine, c'est l'écrivain Laurent Mauvignier. Et nous ouvrons cette émission avec le nouveau roman d'Antoine Volodine, Terminus radieux, publié aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie. Il paraît que c'est le 41e roman de l'auteur, j'avoue que je n'ai pas compté. Auteur, inventeur d'un genre dont il est quasiment le seul pratiquant, le post-exotisme, seul pratiquant mais avec une foule d'hétéronymes. Pour Volodine, les thématiques du post-exotisme sont notamment, je le cite, une rumination sur l'échec des luttes révolutionnaires, sur les abominations génocidaires du XXe siècle, sur les utopies et leur dégénérescence, une mise en scène de la solitude, de l'impuissance devant la mort et la douleur de l'autre, la dérive vers la folie, l'indistinction entre rêve et réalité, quelques autres thématiques encore, mais les personnages post-exotiques sont en accord avec ses choix, ce sont souvent des agonisants, des malades mentaux, des gueux, des sous-hommes, voire même des animaux. On retrouvera un certain nombre de ces thématiques dans Terminus radieux. Terminus radieux, c'est le nom d'un kolkhoze irradié par une pile atomique qui s'enfonce dans le cœur de la Terre. De toute façon, pour les protagonistes de cette histoire, la fin a déjà eu lieu, donc se trouver à proximité du terminus radieux n'est pas très grave. L'action débute peu de temps après la chute de la deuxième Union soviétique, puisque la capitale, l'Orbise, est tombée 2 mois auparavant aux mains de l'ennemi. Et on découvre, quand s'ouvre le roman, 3 fuyards, 2 déserteurs et une femme à l'agonie, qui ont franchi les limites de la zone sécurisée pour s'aventurer dans les immenses territoires irradiés. Et puis c'est là, après 29 jours de marche, alors que leur état se détériore d'heure en heure, qu'ils aperçoivent un train. 3 petits points, là, c'est, j'ai déjà dit les 3 premières pages, il en reste donc 597 ou à peu près. Mais c'est un point de départ, en tout cas, que... Enfin, j'y reviendrai, mais que j'ai beaucoup aimé. Elisabeth Franck Dumas, sur ce livre d'Antoine Volodine.
Oui, mais je pense que vous avez raison de parler du début, puisqu'en fait, dès les premières pages, on sait que pour ces personnages-là, qui sont des personnages typiquement volodiniens, vous l'avez dit, post-exotiques, des anciens révolutionnaires en fuite, en errance, qui n'ont pas abandonné leur fidélité à ces idéaux-là, même si la deuxième Union soviétique est tombée. Donc on sait très rapidement que pour cela, c'est fichu. Voilà, ils sont dans cette zone irradiée, ils vont mourir. En tout cas, pense-t-on. D'ailleurs, l'une d'entre elles est en train d'agonir. Et donc, qu'y a-t-il à attendre de cette intrigue ? Eh bien, tout. Grâce à cette incroyable puissance narrative, alors même qu'on sait d'avance que tout est fichu, on avance, la langue avance, l'intrigue avance, les mots roulent, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie, et pourtant, on y va. C'est très drôle, c'est désespéré en même temps. Si, enfin, ça marie bien. Deux, c'est d'une poésie très, très ample.
Le burlesque, efficace, le post-atomique,
aussi.
Quoi.
Oui, mais il y a plein de... Et voilà, donc ils arrivent dans ce... Enfin, un des personnages, Cronauer, arrive au terminus radieux, où une vieille et invulnérable héroïne de la deuxième Union soviétique, Mémé Oudgoul, remplit le trou creusé par cette pile radioactive avec toutes sortes de déchets. Son mari, son premier mari, le président du kolkhoz, Soloviev, lui aussi invulnérable, qui ressemble à un gros koulak, qui est une sorte de chaman, un nécromancier des steppes, apprend-on, qui semble inventer ou rêver l'existence de tous les personnages, à commencer par ses trois filles, et qui les manipule comme des marionnettes, qui peut les condamner à 2600 années d'errance qu'on vit à travers la lecture du livre. Et bon, en le décrivant comme ça, ça pourrait avoir un côté un petit peu fatigant de réalisme magique, enfin que le réalisme magique peut avoir parfois. Et en fait, pas du tout. Il y a une vigueur dans la langue, dans les descriptions, une sensualité également. Assez rapidement, on ne sait plus très bien qui écrit, qui parle non plus. Il ou je, peu importe, est une formule qui revient souvent. Parfois nous, parfois c'est peut-être, on se dit que c'est peut-être même un corbeau. Tous les personnages pourraient être nés de l'imagination de Soloviev. Et en fait, tout ça, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Au contraire, même cette incertitude est une preuve que du pouvoir de cette langue qui avance comme ça, qui efface tous les repères et qui pourtant, ou en tout cas pour ma part, ne m'a pas perdue. Un petit peu à l'image de cette pile qui est nourrie comme ça de vieux déchets, de vieux journaux, de livres. Le livre avance et fait feu de tout bois. Le temps est complètement distendu. Il y a des précisions de secondes à certains endroits, à d'autres endroits. On hésite entre plusieurs siècles, peut-être qu'un ou deux siècles avaient passé. On lit des journaux vieux de centaines d'années. En même temps, on s'enthousiasme pour les bonnes nouvelles qu'ils portent. Il y a un humour noir et une tendresse pour les idéaux révolutionnaires qui n'ont pas vu le jour. Il y a quelque chose d'assez incongru, de très dynamique. Je vais laisser la parole à Philippe Delaroche.
Pour l'instant, mais je reviendrai vers vous, Elisabeth. Philippe Delaroche, sur Familles Radio d'Antoine Volodine.
Mais écoutez, je me joins à l'éloge. Volodine, c'est vrai que c'est un univers. Et on demande à un écrivain de se démarquer par un style, par un univers. C'est le cas, cette fois encore, avec Terminus Radio. Non, je trouve qu'il use, si je puis dire, de toutes les ficelles possibles du roman. C'est le roman puissance 1 milliard de mégawatts. C'est une pile atomique, d'une certaine façon. Et il est évident que ce qu'il n'y a pas de désespérant chez Volodine, c'est justement le pouvoir de la parole. Il n'y a que la parole qui sauve. Si l'on arrive à estimer qu'il n'y a plus de distinction possible entre la vie et la mort, puisque, encore une fois, ces personnages ont tendance à agonir très longtemps. Notre ami Vassilicia, elle n'en finit pas de gémir. Elle peut gémir jusqu'à la fin des temps. Et en même temps, il n'y a pas de fin des temps. Et ce qui est inouï, c'est cette espèce de, comment dire, d'abolition de la limite tranchée entre justement le je, le il, le nous. Abolition entre le vivant et le mort, et l'inanimé. L'abolition entre l'homme et la machine. Imaginez que la pile atomique lit la prose, par exemple, du terrible Soloviev, qui est une espèce de dieu, de sorcier incroyable. Il faut quand même oser, quoi. C'est vraiment... Et moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi le talent de Volodine, c'est pas tant les situations que les personnages. C'est-à-dire que de voir comment il creuse ces personnages. Il y a les personnages de premier plan, les trois dont on a parlé, donc ces deux hommes et cette femme qui ont une relation étrange, parce que c'est pas une relation amoureuse, c'est pas le jeu des gym. Entre Ilyushenko, Cronauer et Vassilissa, et puis d'autres, les personnages effectivement de second plan, qui sont évoqués parce qu'ils se rattachent à l'histoire de chacun des trois premiers, ou alors parce qu'ils sont justement au centre de cette fameuse, ce fameux kolkhoz qui est jumeau d'un autre kolkhoz. Il y a l'étoile rouge et puis il y a Terminus Radio, donc Soloviev, Mémé Oudgoul, et puis ce fameux ingénieur, le Barguzine, qui a tendance à décéder fréquemment. Là encore, on revient à l'idée qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a jamais de mort définitive. Il n'y a jamais rien de définitif. Moi, j'ai aussi pensé un peu à Beckett, quand même.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment des scènes. Par exemple, une phrase comme « Le temps mettait du temps à s'écouler, mais il s'écoulait. » Bon, OK.
Et puis il y a un dialogue entre
Mémé Oukdoul, donc qui est sur le vieil, avec ses fameux rouleaux qui lui demandent de classer. Il dit oui, d'accord, je les classe, mais après je les jette au fond du puits. On se demande pourquoi.
Pourquoi les classe.
Et là, il y a une.
Il faut les jeter classés.
Là, il y a presque une réplique d'une pièce de Beckett où il dit un rouleau, et si on en écoutait un. Voilà. Là, on est subitement au théâtre. Et je trouve que l'exotisme qu'on évoque à propos de Volodine, c'est une façon de. Comment dire, de déplacer, de déstabiliser le lecteur et de l'entraîner justement dans ce qu'on peut appeler le pouvoir ou la magie de la langue et de la parole. Non, moi, je trouve ça coûté très réussi. C'est une épopée de la défaite. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a tous les accents, la flamboyance de la défaite. C'est-à-dire que tout est fini, tout est râpé. On ne sait plus d'ailleurs précisément qui est l'ami et qui est l'ennemi. Allez savoir. La deuxième Union soviétique, alors dans un premier temps d'ailleurs, elle s'étend sur la carte du monde, puis ensuite on a cru comprendre qu'au contraire, elle s'était contractée. Et que, voilà, c'est... Moi, encore une fois, je suis assez étourdi par cet humour aussi. Par exemple, là aussi, c'est du Beckett. Quand ils écoutent les fameux rouleaux, le commentaire, c'est que des fadaises poétiques trop loin du réalisme soviétique. Bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a... C'est à croire qu'il y avait aussi un fond de poésie dans le réalisme soviétique.
Oui, oui.
Qui nous avait échappé, peut-être. Elisabeth Franck Dumas.
Non, mais je pense qu'il y a une fidélité aux idéaux, même s'il y a, même s'il y a absolument aucune illusion sur ce que le régime a pu représenter. Et alors, il y a des diktats qui tombent, comme ça, à des moments totalement incongrus. Vers la fin du livre, Kronauer, alors qu'il a vécu des milliers d'années d'errance, un vrai purgatoire, le mot enfer est prononcé, mais là, c'est plus un espèce de purgatoire infini. Je ne sais même plus si j'ai déraillé ou non des principes marxistes, comme si c'était ça qui était important.
Oui, c'est vintage, ça, c'est vintage. Hein, c'est le zéro et l'infini.
Oui, voilà, mais ça revient. Ou la Mémé Oudgoul qui, en se disant, tiens, je le crois, mais en même temps, je ne l'ai pas suffisamment interrogé avec privation de sommeil, je ne suis pas certaine qu'il dit la vérité. Il y a des petits accents comme ça de ce régime politique qui reviennent à des endroits tous plus farfelus les uns que les autres, mais une tendresse quand même pour ce que cet idéal collectif a pu représenter. Qu'on voit, ça n'est pas que... Il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. Ça n'est pas juste une satire de ce que l'Union soviétique a pu représenter, la Deuxième Union aussi. Et c'est ça qui en fait un livre profondément bouleversant, je trouve. Et puis, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, mais qui est pareil, qui est un témoignage de la puissance de cette langue, c'est le rapport à la nature et notamment
les
aux plantes, les herbes.
Les herbes.
Donc, il invente... Je vais lire quand même juste un tout petit passage. Sous le vent, près de lui, murmurent des grandes ogrons, des touffes de Kvoina, des abaculianes, des septentrines, des jeunes des communistes, des renards de Bréhaigne, des aldous. Alors, je suis quand même allée chercher. Non, elles n'existent pas. Mais justement, cette manière de faire revivre cette nature qui a été dévastée par les explosions nucléaires et d'en faire cette création poétique qui se nourrit d'elle-même. Là, c'est une petite énumération. Parfois, ça dure des pages et des pages. Et on est ravis de faire rouler ces mots-là sous la langue, de sauter de l'un à l'autre et de s'émerveiller sur cette poésie et cette créativité.
Alors moi, je suis ravi de cette inscription de Volodine à la dispute parce que j'avais un peu décroché, moi, j'avoue, de Volodine. J'avais lu par passé avec beaucoup de plaisir nombre de ses livres. Et puis, voilà, je crois que j'avais une petite lassitude de son univers, alors très marqué, de son monde. Et là, alors, pour le coup, j'ai vraiment eu du mal à lâcher le livre. On a vraiment envie de le lire presque d'une traite, ce qui, pour 600 pages, est un peu compliqué. Mais bon, mais parce que quand même, vous disiez, il n'est pas fort dans les situations. Moi, je trouve qu'il y a un sens quand même du récit, du montage, de la fabrication qui est quand même extrêmement...
Je ne diminue pas l'art des situations, enfin la manière d'écrire les situations. Je dis simplement que ce soin qu'il applique au personnage, c'est une des choses qui me frappe le plus.
Ah oui, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'on ressent aussi, enfin, les choses, moi je voulais le dire, l'impression de sentir les herbes dans lesquelles ils sont couchés, dans lesquelles ils s'enfoncent, et des fois ils ne réapparaissent pas. On a l'impression de respirer le même air, ce qui heureusement n'est pas le cas. Il y a comme ça une chose extrêmement mystérieuse dans le travail de Volodine, parce que ça passe par une langue qui est finalement, même si il y a des inventions poétiques de mots, une langue assez simple, malgré tout.
Efficace.
Efficace. Et puis, il y a cette dimension qu'on a déjà évoquée, c'est-à-dire que les personnages eux-mêmes se demandent toujours s'ils sont vivants, s'ils sont morts, s'ils sont en train de rêver, s'ils sont eux-mêmes les personnages du rêve de celui qu'ils sont en train de regarder. Moi, j'avoue que tout ça me réjouit, me fascine et peut me faire rêver longtemps.
Le mot qui compte et qu'a prononcé Elisabeth Franck Dumas, c'est farfelu, bien entendu. Le farfelu. Mais je disais épopée de la défaite. Ce récit, encore une fois, qui moi me fait penser aussi à des planches de bande dessinée. Enfin, on a les images tout de suite qui se projettent. Ça soulève un écho avec la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est un climat de débandade, de débandade absolue. Et effectivement, de temps en temps, il y a des rappels de slogans. Par exemple, quand il dit « Oui, le contexte n'était pas favorable à l'égalitarisme ». Alors, on a envie de se dire alors, pourquoi l'égalitarisme n'avait pas fait ses preuves? Il n'était pas assez convaincant. Et moi, j'ai lu ça aussi en me disant, en pensant à l'espèce de désorientation dans laquelle nous-mêmes nous vivons aujourd'hui, quoi. Des climats de débandade ou d'impuissance, où de temps en temps, on se raccroche à des slogans ou à des vieilles opinions. La question n'est pas de savoir si ces opinions sont justes, mais nous aimons ces opinions. Voilà. Et ça, c'est très humain.
Ce qui m'étonne aussi, c'est que Antoine Volodine, depuis 1999, où il avait eu le prix du livre Inter et le beau privé plaire, il n'a plus jamais été récompensé. Alors là, j'ai vu qu'il était sur plusieurs listes, je crois, de prix littéraires. Je crois qu'il serait quand même temps qu'il ait un prix majeur à nouveau, Antoine Volodine, non ?
C'est le moment de le demander.
C'est le moment, non ? Parce que Terminus
Crânien. Il va faire un comeback, vous allez voir.
Vous croyez ? Non, parce que c'est magnifique.
On va se souvenir peut-être qu'il y a des livres qui ont de la consistance dans cette rentrée.
Et Terminus Crânien. Parce que la consistance, on l'entend dans ce qu'on vient de dire les uns et les autres. Elle est dans le fond et dans la forme, ce qui n'est quand même pas si souvent. Et c'est quand même ce qu'on demande aux écrivains.
Et puis il y a quelque chose de très actuel, vous en parliez, mais qui rappelle le contexte actuel où il explique que ces personnages n'arrivent pas à comprendre comment les riches et leurs mafias réussissaient à gagner la confiance des populations laborieuses.
C'est toujours la même question. Pourquoi les pauvres républicains ou conservateurs?
Voilà, nous n'avions aucune explication quand nous nous interrogions sur les mauvais choix de l'humanité.
Parce que la grande question, le thème dominant, c'est les pauvres ont toutes les raisons de s'unir et les riches auraient toutes les raisons de s'entre-déchirer. Or, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le caractère illogique.
Il y a une manière de raviver ça et de le baigner dans une lumière qui fait qu'on regarde ça à nouveau et on se dit, mais ma foi, oui.
Ouais, et puis cette semaine, on a parlé mardi soir de Léviathan, sorti au cinéma mercredi, que je conseille. On peut regarder Léviathan d'un côté en ayant le livre d'Antoine Volodine dans son sac. Ça nous donne une vision de l'humanité un peu désespérante, certes, mais ça permet un bain de lucidité, Philippe Delaroche.
Vous savez comment Einstein définit la folie? Parce que quelque part, cette débandade, c'est aussi parce que les humains ont tenté quelque chose, qu'ils ont répété, reconduit, et ça n'a pas marché. Et Einstein dit, la folie, ça consiste à refaire continuellement une expérience d'après la même procédure, en espérant que le résultat changera. Quelque part, on pourrait dire que c'est un peu ce qui s'est passé ou ce qui se passe.
Voilà, conclusion sur Terminus Radieux, qu'on recommande à l'unanimité des disputeurs que nous sommes ce soir. Oui, Terminus Radieux, oui, à tout point de vue.
Tout est dit.
Tout est dit. Antoine Volodine, ce livre est publié aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Dans une quinzaine de minutes, nous disputerons autour du livre de Nathalie Bauer, Les Indomptés, publié chez Philippe Ray. Avant cela, il reste pour l'heure Indomptée, Antoine Guillot, avec la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. S'il fallait se défier de cette rentrée littéraire 2014, une rentrée de bonne facture, c'est parce que les livres et leurs auteurs, à quelques exceptions près, ne nous parlent guère de la France, regrette Maurice Safran dans son éditorial du magazine littéraire d'octobre titré « La France hors champ. Le plus fréquemment, nous restons encore cantonnés à une micro-littérature des sentiments et des âmes. Pourquoi pas, elle ne manque pas de charme, cette littérature, mais n'est-elle pas désuète? Comment comprendre cette impasse assumée, cette zone d'ombre de notre littérature? Je ne citerai pas de nom, écrit prudemment le directeur éditorial du mensuel, ne mettrai personne en cause. Mais pourquoi nos grands, entre guillemets, romanciers s'abstiennent-ils soigneusement de s'attaquer aux mots, douleurs, fractures ou non-dits de la société française, de les triturer, de les raconter, de les mettre en perspective et en pièces, à l'inverse des romanciers américains, italiens, allemands ou espagnols? En France, poursuit Maurice Safran, bien peu osent, comme s'il existait une crainte, une terreur, de se brûler au feu de la politique et de l'idéologie, de l'engagement forcené et aveugle. Les romanciers sont passés à l'esquive. Y a-t-on gagné ? Pas sûr. Il ne faut certes pas regretter l'impérium de la littérature engagée d'antan. Oui, elle fut trop souvent abrutissante, pourvoyeuse de schématismes et d'œillères. Et s'il fallait choisir, qu'à Dieu ne plaise, entre Sartre et Proust, nous n'hésiterions pas longtemps. Ce n'est pas pour autant qu'il faille se détourner, se désintéresser des tourments qui vrillent notre société, au risque de simplement fermer les yeux. Eh bien, fermer les yeux, c'est ce qu'apparemment les autorités de tutelle de la littérature ont tenté de faire pendant plus d'un an. C'est l'histoire d'une patate chaude que les pouvoirs publics et les éditeurs essayaient tant bien que mal de se repasser et racontée par Alain Beuve-Méry dans Le Monde. Le coup est parti le 8 septembre d'une librairie montparnassienne. Dans une lettre adressée au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et à la toute nouvelle ministre de la Culture, Fleur Pellerin, le patron de la librairie Tchan à Paris, Yannick Poirier, s'est indigné du silence des pouvoirs publics concernant une invitation officielle. En juillet 2013, l'Allemagne demande à la France qu'elle soit l'invitée d'honneur de la foire de Francfort en 2017. Fin août 2014, la France n'a toujours pas répondu à l'Allemagne, écrit-il dans ce courrier qu'il a envoyé dans la foulée à tout son fichier clientèle par email. Pour mémoire, la France n'avait pas été l'invitée d'honneur de la foire de Francfort depuis 1989. Cette situation embarrassante a été évoquée le 10 septembre au bureau du syndicat national de l'édition, qui a rendu public un communiqué en fin de journée, se disant très honoré que la France soit invitée en octobre 2017 à la foire du livre de Francfort. Les éditeurs espèrent que l'État appréciera à sa juste valeur cette prestigieuse invitation et qu'il y répondra favorablement en décidant d'attribuer des moyens exceptionnels à cet événement qui contribuerait au rayonnement culturel de la France et de la francophonie. De fait, il y a bien eu un couac, constate Le Monde. L'invitation faite par Jürgen Boss, le patron de la foire du livre de Francfort, la plus importante d'Europe, adressée à plusieurs cabinets ministériels, est tombée dans un trou interministériel. Mais le silence français s'expliquait aussi par des raisons plus profondes. Après consultation du Brésil, pays hôte, en 2013, être l'invité du pavillon d'honneur de la foire de Francfort coûterait de 6 à 8 millions d'euros. Et l'argent ne coule à flot ni du côté de l'État, ni du côté des éditeurs. Pour les pouvoirs publics, comme pour les éditeurs, les priorités se situent plutôt ailleurs, du côté notamment du soutien actif aux librairies françaises, menacées par la concurrence du libraire en ligne Amazon. Bref, pour les acteurs français de la chaîne du livre, il existait un risque réel que l'acceptation de l'invitation allemande entraîne des coupes budgétaires dans d'autres politiques jugées aujourd'hui prioritaires, comme les aides aux bibliothèques, la traduction aux libraires. De même, les pouvoirs publics aimeraient ne pas attendre 2017, date de l'invitation, pour renforcer la coopération franco-allemande dans le domaine du livre, qui est un des rares secteurs où il existe une unité de vue entre les deux pays, que ce soit sur la fixation du prix du livre numérique par les éditeurs et le taux de TVA qui doit lui être appliqué, ou sur les politiques à mener à l'échelle européenne à l'encontre de Google, Apple ou Amazon. Afin de renforcer cet axe franco-allemand, la France aurait été prête à avancer une contre-proposition organisée au moment de la foire de Francfort en 2015, une réunion des ministres européens de la culture qui traiterait des enjeux et de la mutation du livre. L'autre solution aurait été de proposer à son tour à l'Allemagne de venir comme invité d'honneur au Salon du Livre de Paris. Et bien finalement, raconte à nouveau 12 jours plus tard Alain Beuve-Méry dans Le Monde, en voyage officiel à Berlin, Manuel Valls a annoncé mardi devant la presse que la France serait au rendez-vous de la foire du livre de Francfort en 2017. Le Premier ministre a témoigné de son enthousiasme, certes tardif pour cette invitation, avant d'évoquer les fonds nécessaires, car c'est bien la question financière et le coût de la manifestation qui avait pour l'instant donc conduit les pouvoirs publics et les éditeurs à tergiverser. De fait, les professionnels du livre ont désormais 3 ans pour trouver l'argent nécessaire, mais dans 3 ans, tout ira mieux, n'est-ce pas ?
C'est bien maintenant, Madame Irma est parmi nous. Dans 3 ans, tout ira mieux, Antoine. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Philippe Delaroche.
Oui, je suis très étonné de la lecture qu'a faite Maurice Safran de la rentrée littéraire. Parce que si vraiment les romanciers français ne parlent pas de la France, ça veut dire qu'il a mis de côté Serge Joncourt à l'Écrivain National, qu'il a mis de côté Olivier Adam et Peine perdue, qu'il a mis de côté Aurélien Bélanger et l'aménagement du territoire, qu'il a mis de côté Benjamin Berton et le nuage radioactif. Bon, je veux bien qu'ils mettent de côté L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt, parce que...
Bah, les Vosges, c'est la France, non ?
Voilà, non, mais bon, c'est l'Est, oui, bien sûr. Mais enfin, disons que là, on était plus dans le domaine du roman sentimental que du roman sociologique. Mais enfin, quand même, j'ai pas l'impression qu'on ait eu les mêmes livres. Alors, c'est peut-être pas la rentrée 2014 qu'il a lu.
Ah, c'est possible.
Non, mais là je suis très étonné. C'est
pas et parce là, que vous citez ça à la volée en entendant la revue de présent Antoine.
C'est pas parce que Gérard Mordillat ne fait pas partie de la rentrée littéraire que les écrivains français ne parlent plus de la France, quoi.
Oui, Elisabeth Frangéma.
Oui, je rajouterai à cette liste Boisdeux, d'Elisabeth Filliol, de la Commission Papillonnaire, Debout payé dans un genre différent. Donc oui, non, je suis assez surprise. Mais c'est un petit peu un refrain qui revient souvent, non, sur ces Français qui ne regardent que leur nombril, alors que les Américains, eux, s'attaquent à des grands sujets. Enfin,
et puis encore pris sous l'angle très académique, la question de l'engagement, Sartre, Proust.
Mais peut-être qu'il a eu la rentrée 94, peut-être, non ?
Non, mais c'est vintage, quoi, comme lecture. Quoi.
Ouais.
Non,
Vintage, hein, c'est le mot ce soir
pour vous, Philippe. Oui. Non, mais c'est les années 60, quoi, je dirais. D'ailleurs, il n'a pas dit...
Il n'a pas dit
Sartre Camus, il a dit Sartre Proust.
Ouais.
On n'a que comprendre qu'à une certaine époque, il aurait peut-être choisi Sartre, et puis peut-être à une autre époque, il choisirait Proust.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est de l'opportunisme, de saison, quoi. Mm. Non, c'est pas vrai. Les auteurs français... font écho à ce qui se passe, ce qu'ils ont sous les yeux. Ils décrivent la France profonde pour Serge Joncourt. Voilà. C'est aussi souvent le cas d'Olivier Adam, bien entendu. Mmh. Donc, non, pour moi, c'est un procès d'intention. C'est un faux procès.
Tiens, j'en profite, c'est pas au sujet, mais votre coup de cœur français de la rentrée, vous, Philippe Delaroche.
Là, vous me...
Je vous cueille à chaud, à froid.
Oui. Vous me cueillez à froid.
Parce que vous citez deux fois Serge Joncourt. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un plaisir
particulier ? Oui,
c'est
Je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est... un peu traité par le mépris ou par-dessus la jambe, ou un peu, on considère que c'est un auteur peut-être un peu facile, avec sa patte mélancolique, humoriste, etc. Non, moi je prends très au sérieux, je trouve que c'est un très bon écrivain. Voilà. Et donc l'écrivain national est un de mes tout premiers favoris, absolument.
Elisabeth Franck Dumas, vous doutiez que j'allais vous retourner la question. Donc
je vais aussi défendre Nathalie Bauer, bien entendu. Mais...
Oui, non, mais ça, c'est dans un instant.
Ça, c'est pour...
Ah non, mais moi j'en ai parlé, mon coup de cœur de la rentrée, c'est le Volodine. C'est un roman russe écrit en français.
C'est un roman russe.
J'aime beaucoup le Volodine.
Et c'est un roman qui parle de notre société en creux et en reflet aussi. Donc,
sur la débandade.
Même s'il se passe dans la taïga.
Ouais, donc c'est votre roman français.
Oui, c'est mon roman français de la rentrée.
Oui, de la rentrée. Le Quercy ou la Taïga.
Bon, les histoires politico-économico, diplomatico, c'est de la Roche.
C'est comico-pathétique, on ne peut pas dire autrement. je dirais, l'Allemagne, donc le responsable de la foire de Francfort qui attend pendant 3 ans qu'on lui réponde. 3 ans, vous vous rendez compte quand même. Bon, et effectivement, et là, bon, que ce soit sous le régime de Sarkozy ou sous le régime de Hollande, ça a été la même inertie. Et c'est au Premier ministre d'aller d'aller déclarer qu'on dit oui. Là, on est une caricature d'État jacobin, si je puis dire. Parce que s'il faut vraiment remonter jusqu'au Premier ministre pour avoir le feu vert, c'est quand même c'est dramatique. Alors maintenant, il faut quand même rappeler une chose, c'est que Francfort, certes, ça fait 25 ans que la France a été la nation invitée, mais Francfort, c'est avant tout une foire professionnelle.
C'est la foire c'est là que se signent vraiment les
agents,
contrats,
les scouts, etc.
Traductions.
Font des affaires, ratifient des deals qui ont été d'ailleurs souvent engagés avant même la Bokmesse, avant
le marché du livre.
Ça n'a pas d'impact populaire au grand public, si vous voulez. Encore une fois, c'est une foire dans des cubes de béton où on deal, quoi. Voilà.
Oui, c'est pas l'équivalent du Salon du Livre de Paris.
Faut nuancer. C'est pas le Salon du Livre de Paris. D'ailleurs, ça s'appelle bien foire. C'est une foire aux affaires, si vous voulez. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu indécent, encore une fois, d'avoir fait attendre aussi longtemps et puis de se dire « Ah bah ça y est, on vient d'apprendre qu'elle va être la première économie que va faire le gouvernement, mais finalement, ça va être la foire du livre de Francfort en 2017.
Bon. Mais comme d'ici là, tout ira mieux, selon Antoine Guillot.
Non, mais là, on est toujours dans le rapport magique au principe de réalité. Hein. C'est comme l'inversion de la courbe du chômage. Quand on calcule que, d'après la pyramide démographique, les baby-boomers devraient partir à la retraite, les fonctionnaires aussi. Mais le problème, c'est que comme le climat se tend, les baby-boomers s'accrochent à leur bernique en disant « Non, mon Dieu, comment je vais élever mes enfants, petits-enfants ?» Ça ne se passe pas comme prévu. Voilà.
Rien ne se passe comme prévu. Elisabeth Franck Dumas.
Oui, on se demande d'ailleurs maintenant que ça a été accepté, qui va régler la note, justement. Parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Culture. Enfin, comme vous l'avez souligné, le ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, c'est de lui que dépendent aussi les alliances françaises, les instituts culturels à l'étranger, etc., qui depuis des années voient leur budget s'atrophier. Là, évidemment, ça questionne le rôle du ministère des Affaires étrangères. Je pense quand même que ça aurait eu un impact, même sur une foire commerciale. Vous ne pensez pas que...
Non, mais ça n'a pas le même impact. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas à gérer l'image de l'édition française.
Il ne va pas s'en trouver bouleversé auprès du grand public allemand.
Exactement, parce que 80%, encore une fois, des contrats ratifiés à Francfort se préparaient de longue date. Pour le prestige de la foire, il y a toujours des papiers qui racontent qu'on a mis aux enchères le manuscrit, le truc, qu'on n'avait pu lire que 3 pages, c'était dans un coffre à l'hôtel truc. Bon, ben ça, c'est le folklore de la foire de Francfort.
C'est pas que le public allemand, d'ailleurs, c'est le public allemand
bien sûr.
Entier.
Mais 130 pays.
Mais je crois que c'est un confrère qui soulignait que, si la France avait été invitée, ça aurait peut-être été bien d'avoir justement des livres français au catalogue. Donc ça se serait fait avant, mais enfin, il y aurait quand même eu un petit...
Non, mais là, une question de courtoisie.
Oui. Puis de rappel des ministres, non. Enfin, vous l'avez dit, c'est coups de téléphone qu'on n'a pas, ces rendez-vous qui n'ont pas été pris, ces coups de téléphone qui n'ont pas été rendus. Enfin,
voilà, la lettre est tombée dans le même concernant. Trou interministériel que le dossier de Christian Scaretti pour la Comédie française. Ça devait être le même trou noir qui existe parfois d'un ministère à un autre. Bon, allez, on va parler dans quelques minutes d'un coup de cœur donc, de Philippe Delaroche, on l'a compris, le livre de Nathalie Bauer, Les Indomptés. Mais avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, lui aussi, il fait partie de la rentrée littéraire, c'est l'écrivain Laurent Mauvignier.
Comment allez-vous? Très bien, merci.
Laurent Mauvignier, vient toujours le moment dans la semaine où l'invité se retrouve confronté à sa propre discipline, même si on a vu qu'avec le théâtre, vous étiez chez vous, cinéma, télévision, un petit peu, art plastique aussi. Alors, on a compris hier la musique différemment, mais la littérature, c'est la rentrée littéraire. Est-ce que vous lisez les camarades, les amis, les compagnons de maison d'édition? En l'occurrence, il y en a une, c'est Julie Adek, ici aux éditions de Minuit. Comment est-ce que vous vivez ça, vous?
Alors, je lis, mais pas pendant les périodes de rentrée littéraire. Soit je lis pas du tout, ou soit je lis des choses... les livres que j'ai envie de lire, qui vont sortir là pendant la rentrée, je les lirai dans quelques mois, parce que c'est...
Le temps que le cirque soit passé?
Ouais, un peu, ouais, quand même.
Non, mais c'est pas péjoratif.
Non, parce que c'est vrai que c'est... Non, puis c'est pas seulement une question de cirque, c'est aussi une question plus intime, c'est aussi simplement, c'est des moments... On peut pas dire que ce soit les moments les plus sereins de notre vie, quand même. Hein. Passer 3 ans à écrire un livre, en 3 semaines ou à peu près, il se passe beaucoup de choses, pas que des choses douces. Donc, c'est pas des moments où on est et puis aussi simplement peut-être parce que c'est important pour soi. Je veux prendre le temps de lire les livres dont j'ai envie, sans être serein, au moins avec le temps d'essayer de les comprendre et de les appréhender.
Vous l'avez dit précédemment cette semaine, Laurent Mauvignier, l'écriture, elle commence très tôt chez vous, la pratique de l'écriture. Est-ce que c'est la pratique de la lecture quand même qui précède?
Non.
C'est vraiment l'écriture en premier?
Ouais. Il y a eu un livre un petit peu déclencheur, mais bon, quand j'étais enfant, quoi, à l'hôpital, la fameuse comtesse de Ségur et son bon petit diable, avec l'envie d'écrire la suite, de continuer, parce que j'étais immobilisé sur un lit, quoi. Mais après, j'ai écrit et j'ai toujours eu l'impression de lire pour essayer de comprendre comment on pouvait écrire, quoi. Et ça change pas tellement finalement ça. J'ai toujours l'impression que je sais pas écrire, c'est sûr, mais personne ne sait écrire. Ou alors malheureusement les gens savent écrire et c'est encore pire. Je me dis, il y a un secret quelque part, il y a un truc que je comprends pas et je sais pas si les autres connaissent ou pas ce secret, mais quand même je me dis, c'est dans les livres que ça se trouve. Parfois on rencontre des livres, on se dit la littérature elle est là. Et alors on sait pas où, mais on se dit. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais...
Avec qui vous semble avoir approché de ce secret?
Je sais pas, je me dis, par exemple, pour moi, ou Faulkner ou Thomas Bernhard, il y a des moments où je me dis, la littérature, elle est à cet endroit-là, mais alors on ne sait pas où dedans, en fait. Mais c'est ça qui est fascinant. Et c'est ce qui fait, par exemple, que ces auteurs-là, on les lit quasiment entièrement, parce qu'on se dit, où est-ce que c'est, cet endroit ? Du coup, on va lire de la théorie, on va lire, on va essayer de comprendre. Puis ça répond pas à la question. On sent bien que ça répond pas, on sait bien que c'est pas ça, que ça épuise absolument tout ce qu'on peut en dire. Bon, voilà, on peut secouer ça comme on veut, il y a quelque chose qui reste quand même... Ça me fascine tout le temps, et ça me fascine, et puis j'allais dire ça m'inquiète, en fait. Et à chaque livre que je reprends, j'ai toujours l'impression que, pour reprendre l'idée de Beckett, de me dire qu'il faut rater mieux, quoi. C'est pour ça que j'aime bien lire un auteur en entier, parce que j'aime bien voir comment il essaie de se rattraper aux branches à chaque fois de ce qu'il a sans doute la sensation d'avoir raté avant, alors que peut-être pas, quoi. Dans la pratique, il y a une sorte de dialogue, enfin... Parce que parfois, vous avez la sensation, quand vous écrivez, que quelque chose vous répond, mais vous l'avez aussi en lisant. Et vous avez parfois l'impression qu'il y a des livres qui vous parlent pas et qui vous répondent pas, et d'autres qui, au contraire... Alors, je sais pas si on aime les livres qui, en fait, font écho, même des années avant, à ceux que vous-même vous écrirez, ou si c'est des influences... Par exemple, il y a des questions comme ça que je me pose beaucoup. Ça reste, pour moi, la lecture est... vraiment lié à la pratique, en fait. Vraiment.
Et ça, pour le coup, la lecture, ça s'arrête jamais ? C'est pas comme le cinéma où il peut y avoir des périodes de jachère où... Est-ce qu'il y a toujours des livres en
ouais,
cours ?
Ouais, tout le temps. Il y a des moments de ras-le-bol, j'ai plus envie de lire de romans. Alors, par exemple, le théâtre fonctionnerait pour le coup comme le cinéma. Ça, j'ai des moments de boulimie de théâtre que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas lire du théâtre. Moi, j'adore ça. Je trouve que le théâtre à lire, je trouve ça passionnant à lire. Je comprends pas que ça se vende pas mieux que les romans même. Je trouve ça tellement plus c'est souvent plus rapide, c'est souvent plus alerte, plus vivant. J'adore lire du théâtre. Là, pour le coup, c'est par période. Et il y a une question aussi de rythme. Là, par exemple, cet été, j'ai lu tout le théâtre de Victor Hugo. Là, j'ai trouvé ça, mais c'est génial, quoi. Parfois, c'est même mieux que ses romans, quand même. Ça va plus vite, c'est plus... Et puis, il y a des intuitions, il y a des choses très, très puissantes. Et puis, très... Alors, évidemment, il y a des choses qui ont pris un petit peu de... qui ont vieilli, bien sûr. Mais quand même, il y a une... Il n'y a pas de... Pas une semaine sans lecture. Ça, c'est absolument... impossible, ça.
Mais alors, sur la table de chevet, ces jours-ci ?
Là, bah, par exemple, Robinson Crusoe, que je n'avais jamais lu. Et je me dis, bah, voilà, le livre qu'on a l'impression d'avoir lu, qu'on a l'impression de connaître, et qu'on ne connaît pas du tout, et qui est vraiment extraordinaire. Finalement, ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans les rentrées littéraires, c'est que pour moi, c'est le moment où il faut lire des classiques. Et, parce qu'on se dit, mais quand même, la littérature, c'est bien, quoi. Vraiment. Une fois encore, on ne sait pas où est le... Si ce secret est bien, on ne sait pas où il est. On se dit, c'est pas dans cette page, c'est pas dans celle qui suit, c'est pas dans celle qui suit. Et pourtant,
c'est là.
Je reste quand même étonné et puis, j'allais dire admiratif, quoi. Enfin, fasciné, en fait. On peut dire que c'est quand même de la fascination.
Et toute la semaine prochaine, l'invité de la dispute sera le comédien, scénariste, réalisateur, compositeur Alexandre Astier. Nous poursuivons, nous, cette dispute littéraire du vendredi en nous intéressant à présent à Nathalie Bauer, qui signe Les Indomptés aux éditions Philippe Ray. Nathalie Bauer, qui a une formation d'historienne, qui est également traductrice de l'italien. Et Les Indomptés, son quatrième roman, le troisième, publié chez Philippe Ray. Le dernier livre, d'ailleurs, le livre précédent, Des garçons d'avenir, avait connu, lui, un beau succès il y a 3 ans. Et voilà, un air qui nous amène directement dans l'Aveyron, où se situe l'histoire dont nous allons parler, celle des Indomptés. Nathalie Bauer qui s'intéresse au destin de trois femmes, deux sœurs et leur cousine, Nathalie, Julienne et Gabrielle, dans un mélange des trois sœurs et de la cerisée, on pourrait dire, parce que l'enjeu pour ces héritières d'une certaine bourgeoisie rurale, c'est de sauver le domaine familial, non loin de Rodez. Au présent du texte, nous sommes en 1987, et les trois femmes vont accueillir une de leurs nièces, Zoé, 24 ans, un peu amochée, on va dire, par la vie, on verra comment. Et entre la dureté du présent et le récit du parcours des trois femmes, Nathalie Bauer semble nous emmener dans une saga paysanne dont la France a le goût et parfois le talent. J'imagine, Philippe de la Roche, que pour vous, elle en a et le goût et le talent.
Oui, mais Nathalie Bauer, on la connaît surtout comme traductrice. Ce n'est pas pour diminuer, encore une fois, son talent de romancière. Et elle a traduit quelques chefs-d'œuvre de grands auteurs, Mario Soldati, Primo Levi, Natalia Ginzburg, Marcelo Foch. Et un auteur que je vénère entre tout et que j'ai déjà cité dans cette émission, Federico de Roberto, pour un chef-d'œuvre qui s'appelle « Les princes de Francalanza ». Voilà, qu'elle a traduit il y a une vingtaine d'années. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en lisant Les Indomptés, de songer à cette saga, encore une fois, puisque c'est un genre qu'apprécie et que sert admirablement Nathalie Bauer. Là, on est encore une fois dans une histoire d'une famille. Ce n'est pas les Francalanza, c'est les Randon, Auvergnat, Aveyronnais. Et il y a effectivement des allers-retours entre la fin des années 80... Et la petite Zoé, la nièce, on sent que derrière elle, il y a quand même mai 68. Mais dans l'histoire de ces femmes, il y a aussi l'essor, évidemment, et la prospérité de ce domaine. Et puis, il y a le coup de massue qui est la Grande 14, Guerre. 18, parce qu'avant de savoir que c'était la première, on l'a appelée la Grande Guerre. Voilà. Et moi, j'avoue, je suis très touché par cette méticulosité de miniaturiste qui est vraiment, si je puis dire, la griffe de Nathalie Bauer. Elle décrit comment ces femmes, donc deux sœurs et puis une vieille fille absolument incroyable, Gabrielle, avec une scène comique, quand elle voudrait faire consacrer publiquement, solennellement sa virginité, alors qu'elle a passé les 80 ans. Donc elle fout le bordel, parce qu'évidemment, la famille apprécie assez peu cette publicité. Bon, c'est quand même rare qu'une vieille fille se félicite d'être vieille fille, et qu'en plus de ça, elle proteste de son altruisme, de son dévouement, de son sacrifice. Voilà. Donc ça, c'est l'élément un peu comique du livre. D'ailleurs, la lettre à l'évêque est à mourir de rire. Enfin, il ne faut pas la prendre au premier degré, bien entendu. Voilà. Et moi, je trouve qu'elle a une manière de décrire, par exemple, la relation entre Henri et Jenny, donc ils sont les parents de Noélie. Je trouve ça admirable. C'est vraiment fait au point d'Alençon. La mort de Jean à la guerre, la scène, ça c'est dans le premier tiers du livre, quand le notaire donne lecture du testament, et là tout de suite on sort les couteaux, etc. On y est, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Et ce qui est intéressant chez Nathalie Bauer, c'est qu'elle elle est sur une ligne de crête entre d'un côté le fond documentaire, c'est-à-dire l'histoire de sa propre famille, bien entendu. Et ça, elle le signifie avec des photos qui sont placées in texte tout au long du livre.
Court texte en postface, voilà. Elle le dit. Hein.
Alors ça peut être un peu déroutant, parce que précisément, le lecteur est, si je puis dire, distrait. On essaie de légender cette photo, ça représente qui, etc. Bon. Mais en même temps, c'est ce qui donne aussi un peu son poivré à la dimension, là, cette fois plus romanesque. On a bien compris que ce n'était pas fidèlement et étroitement la vie de sa famille. Mais bon, moi, je suis. Je sais, la réserve qu'on pourrait éventuellement marquer, c'est qu'il n'y a pas. Non, mais j'essaie d'être honnête, là. Non,
mais
moi, j'aime beaucoup ce livre. Ouais. Je dis simplement, il y a des livres qui réclament un rapport au temps différent. Et là. Si vous avez des soucis, si vous ne savez pas comment payer le tiers provisionnel, la taxe foncière, la taxe d'habitation, attendez avant de lire Les Indomptés. Parce qu'il faut vraiment être dans un hamac. N'attendez pas un courtier.
Il faut un hamac, vous êtes sûr ?
Non, mais je
ça
pense
va réduire le lectorat.
Non, mais c'est un livre qui réclame de l'attention. Je le dis vraiment, pour moi, c'est pas un grief. Je dis simplement. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, avec ces allées-venues, ces temps croisés, si vous voulez, vous n'avez pas le rebond classique qu'on peut attendre d'un roman. Vous n'avez pas le nœud dramatique, le rebond dramatique, etc.
Ah oui, donc, c'est un lentissage.
Voilà. Alors si, si vous êtes stressé et pressé, attendez, je sais pas, les vacances de la Toussaint, un grand week-end de trois jours à Lisbonne. Voilà. Mais parce que ça n'est pas fait pour ça. C'est une saga.
Ouais.
C'est une saga. Mais les Princes de Frank Carranza, c'est la même chose. Il faut aussi se donner du temps parce que c'est dense. Il peut y avoir 35 informations par paragraphe. Il faut avoir le temps de mémoriser. Il faut qu'il y ait un écho, une trace. Voilà.
Écho. Elisabeth Franck Dumas.
Oui. Alors moi, peut-être... Est-ce parce que je n'étais pas dans un hamac
Vous êtes un peu stressée en ce moment.
Peut-être parce que je suis un petit peu stressée.
Le climat social se tend.
Voilà.
Ouais, on va dire ça comme ça.
Mais alors, ce livre m'a fait l'effet d'un film à costume. Si j'osais, je dirais même téléfilm à costume, car on retrouve ce thème. Vous parliez de saga paysanne, ce rapport à la propriété, au domaine, ce truc très français qu'on retrouve dans les séries télévisées françaises. Oui, ça, c'est un livre sur la France aussi, je ne sais pas si...
Il faut l'envoyer à Maurice Safran.
Voilà, c'est ça. Mais
c'est trop lourd pour
c'est vrai.
Donc on retrouve tout ça et puis il y a ce côté, alors vous parliez de méticulosité, en effet on s'imagine que les costumes sont très bien réalisés, le phrasé, il y a quelque chose de, si c'était lu à haute voix ça serait très articulé, je trouve que tout est très correct, très correctement écrit, tout le monde se parle parfois violemment, mais ça reste très poli. D'ailleurs, j'ai eu le sentiment que les personnages parlaient tous un peu de la même manière, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'avais du mal à les différencier, même s'il y en a qui sont saillants, mais les dialogues particulièrement, je trouvais qu'on avait du mal à croire que les gens parlent, enfin que ces personnages parlent comme ça, qu'il y a des gens qui aient pu parler comme ça. C'était, et d'ailleurs, même des années 80 à 1914, voilà, il y a aucune différenciation. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, bien moi, je me suis ennuyée. Là, j'ai trouvé que la narration était très explicative, les dialogues servent à la faire avancer, on pose les problèmes, qui est où, pourquoi on fait ça, enfin tous les fils sont exhibés, vous parliez de tissage, mais là vraiment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on écrit un livre comme ça aujourd'hui, pas seulement en 2014, mais on a l'impression que le modernisme n'a jamais existé. Il y a un passage au début qui est très beau, où elle parle des jeunes filles de la famille qui continuent à grimper aux arbres du verger, et puis du jour où elles se marient, elles ne le font plus. Il y a des petits éclats poétiques, de moins en moins au cours du livre, il y a des petits éclats poétiques qui donnent une intériorité, mais sinon j'ai trouvé que c'était, pour moi, ça restait extrêmement plat, et surtout je suis restée totalement à l'extérieur de cette intrigue. C'est méticuleux, mais il y a cette méticulosité, mais je n'y ai trouvé aucune intériorité. Voilà. Alors j'ai terminé le livre car je savais que j'allais en parler aujourd'hui, mais sans vous je pense que je l'aurais abandonné en cours de route.
Alors, comme j'ai pas du tout envie de contrarier Philippe Delaroche, bien sûr je mettrai quelques tout petits bémols. La partie contemporaine, enfin les années 80, voilà, m'intéresse quand même moins. J'aurais préféré carrément rester dans cette période autour de la Grande Guerre, qui est pour le coup très riche, et où le regard de l'historienne qui est aussi Nathalie Bauer fonctionne mieux. Pour le reste, voilà, je n'ai pas envie de dire. Je préfère laisser la parole à Philippe Delaroche.
Oui, non, mais j'aurais juste répondre à Franck Dumas sur la question de du démarquage des personnages et de leur parler. Moi, je crois qu'ils vivent tellement les uns sur les autres. Ils ont été élevés d'une telle façon que ce langage qui nous paraît très académique, très poli, commun, etc., est 100% vraisemblable.
Enfin, dans le mimétisme en plus des
vous
personnages.
Vous êtes jeune, mais je suis vieux. Je peux vous assurer que les gens de mon âge, des sexagénaires même, voilà, retrouveront ce langage polissé, sans trop d'éclat, etc. C'est vrai que si elle introduit le personnage de Zoé, c'est dans l'espoir de déglacer tout ça.
Alors,
je ne vous dis pas qu'elle a réussi son coup, mais en tout cas...
Ouais.
Mais cela dit, à mon avis, Nathalie Bauer, elle est avant tout dans la fidélité. Alors, l'envers de la pièce, c'est qu'effectivement, vous n'aurez pas, encore une fois, ce que j'appelle le rebond dramatique, le changement de rythme, le tempo, etc.
Oui, il n'y a pas le secret de famille.
D'où l'insistance. D'où le fait que je dis, oui, attendez, prenez votre temps, c'est un livre, il faut le lire continuellement, mais pas...
Oui, il ne faut pas attendre de cliffhanger à la fin du chapitre. Pas le genre.
Non, pas au milieu des montagnes russes, quoi. Voilà.
Ouais.
Non, mais je trouve que les personnages, néanmoins, auraient pu avoir une épaisseur et une densité qu'ils n'ont pas. Je parlais de modernisme, ce n'était pas par hasard, parce qu'à un moment, j'ai espéré qu'il y aurait un petit peu de Virginia Woolf. Hein, les femmes, une certaine classe sociale, la même époque. Et pourtant... Là, il y a quand même, même si tout le monde se parle de la même manière, les personnages existent, sont singuliers. Il y a cette intériorité.
Je vais préciser l'angle de mon plaidoyer, si je puis dire. Je ne dis pas que c'est un bijou littéraire, mais je crois qu'il y a vraiment un fond de vérité, cette fois documentaire ou historique, notamment, et c'est ce qui justifie le titre, quand elle montre, ça c'est un peu le thème de Nathalie Boer, que la Grande Guerre, avec le départ des hommes à la guerre, a été l'occasion pour les femmes, qui n'avaient pas trop le choix, de, quelque part, prendre une importance, s'élever même, dans l'échelle sociale. Et le thème, les indomptées, c'est le fait qu'elles saisissent cette occasion. Donc, c'est, on pourrait dire, une occasion d'émancipation.
Oui, dans un monde de femmes.
Un monde de femmes. Et puis ensuite, la société est là. Il y a des hommes qui reviennent. Et comment on reconstruit
tout ça ?
Voilà. Ouais. Et là, elles sont au stade où, après avoir cru sauver le domaine, elles sont effectivement au bord de la ruine, de la banqueroute, en train de monnayer comme des pauvresse avec un agriculteur qui leur explique que leur domaine est délabré, que ce n'est pas à lui de payer, etc. Voilà. Bon. Donc je dis, encore une fois, il y a ce fond de vérité historique et documentaire qui pour moi, a de la valeur.
Bon, valeur pour Philippe Delaroche. Lisez Les Indomptés de Nathalie Boer, publié chez Philippe Rey.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant de conclure cette émission avec la chronique d'André Chabin, c'est l'heure du jeu de la dispute, en commençant par donner, Antoine Guillaume, à nos auditeurs la réponse à la question posée hier au soir qui permettait de gagner des entrées pour la formidable exposition Marcel Duchamp, la peinture même, au Centre Pompidou, une exposition à voir jusqu'au 5 janvier. La question était Antoine.
Il fallait nous donner le titre complet de la dernière grande œuvre de Duchamp, qui ne fut présentée au public qu'après sa mort en 1969.
Alors précisément, il faut écrire « étant donné deux points ». Premièrement, la chute d'eau, pas de virgule. Deuxièmement, le gaz d'éclairage et trois petits points. C'est exactement comme ça qu'il fallait répondre. On fait gagner ce soir des invitations pour un spectacle dont nous avons parlé ici, Le Capital et son singe, de Sylvain Creusevaux. C'est au Théâtre de la Colline. On répond à quelle question, Antoine ?
Quelle première mise en scène Sylvain Creusevaux a-t-il signé avec la compagnie D'ores et déjà ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à une adresse et une seule, auditeur franceculture@radiofrance.com. Il est temps de retrouver André Chabin pour sa chronique mensuelle sur la vie des revues. Bonsoir André Chabin.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Une chronique d'anticipation. Aujourd'hui, en fait, nous sommes le jeudi 9 octobre. Et vous me téléphonez pour la rubrique habituelle de la dispute. Vous m'invitez à parler du Salon de la Revue, qui commence ce vendredi 10 à 20h à l'espace des Blancs-Manteaux dans le Marais et qui durera jusqu'à dimanche. Je suis un peu nerveux car ce sont les derniers préparatifs et du coup, je bredouille. Je n'ai pas trop l'habitude d'ailleurs de causer dans le poste. Et puis je me lance. Et donc c'est à peine si vous pourrez m'arrêter au bout de 4 minutes. Au bord de la forfanterie, je souligne combien cette manifestation bruissante de plusieurs centaines de revues, de tout genre, de la littérature à la philosophie, du cinéma à la politique, en passant par toute la gamme des sciences humaines, est unique. Je soutiens qu'elle tient de la maison de la poésie, du marché de la poésie, grâce à la myriade de revues de poésie, précisément plusieurs dizaines qui l'habitent, et des lectures et réflexions, poésie et philosophie, espace et poésie, nombreuses qui la rythment. J'avance qu'elle est un appendice du Festival America. On y causera de la représentation pour le moins contrastée des États-Unis dans les revues françaises. Et puis, avec un grand débat sur les revues de gauche, l'archipel des revues de gauche mené par la revue Multitude, ce qui les meut, les distingue, les rapproche, et aussi une table ronde proposée par la revue magnifique Dégénération sur les nouvelles formes du féminisme, et comment leur capacité à rebattre les cartes du genre pourrait faire pièce à la domination capitaliste. Le salon se teindra du rouge de la fête de l'humanité. Et à sa façon, le salon est aussi un rebond des journées du patrimoine, en tout cas littéraire. Les cahiers d'amis de Gide à Poulenc, de Giono à Max Jacob, de Gourmont à Francis James s'y pressent en masse une quarantaine. Il faut réparer à tout prix l'image grisâtre qu'on a d'eux, apprécier la qualité de leur travail, loin de la poussière mémorielle de la ferveur compassée. Trois tables rondes leur donneront la parole. Et même si le salon emprunte également au marathon des mots, je me garderai d'égrener la totalité des 27 tables rondes qui le remplissent. Impayables bavardes, ces revues. Mais où donc peuvent-elles se faire entendre ? Mais quand même, je m'en voudrais de ne pas signaler deux rendez-vous, un hommage à Jean Houry et un autre à Peggy, proposé par Nunc et Europe. J'allais oublier, le salon c'est aussi le bal des débutantes, car une dizaine de nouvelles revues s'exposeront pour la première fois. Opium Philosophie, magnifique réussite d'étudiants en philosophie précisément. La revue Incise, poussée au sein du studio théâtre de Vitry, qui croise théâtre, philosophie, pensée critique. L'esprit de Narvik, qui tend un miroir pas toujours avantageux aux pays scandinaves. Des petits bijoux éditoriaux, comme Aka ou Pan, ou encore Nichon. En fait, nichons-nous dans l'Internet. C'est la maligne entreprise qui couche et ausculte sur le papier nos usages quotidiens d'Internet. À vue de nez, il est temps que mon petit récit d'anticipation se précipite vers sa chute. L'anticipation sera d'ailleurs la matière de l'intervention de la belle revue, déjà vantée ici de nombreuses fois, Hippocampe. Deux noms pour finir, deux rendez-vous plus précis. Le vendredi 10, en ouverture, à 20h30, Éric Chevillard viendra nous parler de son rapport aux revues. Je ne vous cache pas le plaisir immense que ça me fait, accompagné du comédien Christophe Brault, qui lira quelques-uns de ses textes. Et enfin, un écrivain à la langue aussi plurielle que peuvent l'être les revues, Vassilis Alexakis, bouclera le salon le dimanche 12 à partir de 17h30. Après coup, je m'aviserai que je réparerai le salon et les revues de plumes d'événements autrement notoires et rutilants. Un petit peu d'abus, mais ne faut-il pas utiliser des caractères gras pour faire saillir ce qu'on voit si peu, et faire sentir surtout le brassage infini des genres dont les revues sont porteuses. Entrée libre donc pour ce salon, à retrouver tout entier sur le site entrevue.org, où on verra d'ailleurs qu'il déborde de son cours en proposant des animations en amont et en aval.
On vous retrouvera vivant après ce salon qui va beaucoup vous occuper, André Chabat, pour une prochaine chronique consacrée à la vie des revues. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Elisabeth Franck-Dumas, Philippe Delaroche et Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. La dispute est possible grâce à Camille Baron, Pascaline Bonnet, Sam Boutata, Daniel Fino, Antoine Guillot et Laurence Millet. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Touvenin. Réalisation Daniel Fino. On se retrouve lundi soir avec Joël Gaillot et René Solis pour parler de théâtre à notre programme Passim 2 et mise en scène François Tanguiste au théâtre de Gennevilliers, Lilium Ferenc Molnar, mise en scène Jean Bellorini au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Je passerai un coup de fil à Lucas Emlem pour sa mise en scène de Je suis le vent de Yon Fosse à la Maison de la Culture d'Amiens. On découvrira les choix de l'invité de la dispute Alexandre Astier. On écoutera la revue de presse d'Antoine Guillot et on jouera au jeu de la dispute. Tout ça, c'est pour lundi. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture dans quelques instants, le journal de la rédaction.